Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, une émission préparée par Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Kieran Gessel, réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son, Alexandre Dang. En attendant la décision du tribunal administratif de Grenoble jeudi prochain à propos d'une possible suspension du chantier de village vacances Center Parcs à Roibon en Isère, les partisans du projet manifestaient à nouveau hier entre 1500 et 2000 personnes réunies pour une marche silencieuse, convaincues qu'une telle infrastructure ne peut être que bénéfique à l'économie de la région. Il est vrai que les chiffres parlent pour eux. Un budget de 370 millions d'euros, 697 créations d'emplois, soit 468 en équivalent temps plein. Un peu plus loin, dans une ancienne maison forestière à proximité du chantier, eux aussi attendent la décision de la justice. Les opposants au Center Parcs de Roibon dénoncent un projet inutile et néfaste pour l'écosystème, notamment pour son impact sur les zones humides. Il est vrai que les résultats de l'enquête publique parlent pour eux. Un avis défavorable a été rendu cet été au titre du respect de la loi sur l'eau, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs la préfecture d'autoriser le lancement des travaux au mois d'octobre. Alors après Notre-Dame-des-Landes, après le barrage de Sivens, voici donc une nouvelle zone de conflit, pour l'instant pacifique, entre deux conceptions apparemment irréconciliables, défenseurs de l'environnement contre défenseurs de l'activité économique. Pourtant, il y a seulement quelques années, l'un ne semblait plus pouvoir aller sans l'autre. Développement durable, emploi vert, agenda 21, la croissance à venir avait le goût de chlorophylle. Un tel discours n'est plus guère audible en ces temps de crise prolongée. Alors la défense de l'environnement nuit-elle à l'activité économique? C'est le débat du jour. Et pour en discuter, deux invités ce soir. Jadeline Garde, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à Mediapart. Vous travaillez notamment sur les questions environnementales. Je dis notamment parce que ce n'est pas le seul sujet sur lequel vous travaillez. Vous avez publié à la rentrée aux éditions La Découverte, « Je crise climatique, la planète, ma chaudière et moi ». C'est voilà, la crise climatique vue depuis votre petit appartement parisien. Et vous expliquez comment on peut justement...
Alberti Villarien.
Alberti Villarien.
Ouais, Aubervilliers.
Ah, Aubervilliers, voilà. Ouais, c'est Paris, quasiment. Pour discuter avec vous ce soir, Éric Le Boucher, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, je ne sais pas si vous habitez Paris ou à sa périphérie.
Oui, j'habite Paris, moi, et pas Aubervilliers.
Vous êtes le cofondateur du site d'information Slate.fr. Vous avez participé à la commission Attali, qui était la commission pour la libération de la croissance. Vous faisiez partie des nombreuses personnes consultées qui travaillaient sur cette commission. Et vous avez publié, vous, cette année chez Plon, « Les saboteurs, quand les politiques bloquent une France qui veut avancer ». Alors, on va démarrer cette discussion avec la question du Center Parcs de Roibon. Mais avant cela, je voudrais vous soumettre un débat que nous avons eu en interne au sein de l'équipe, une fois n'est pas coutume, sur le titre de ce soir. Je le rappelle, la défense de l'environnement nuit-elle à l'activité économique? On n'était pas tous d'accord pour formuler la question de cette manière-là. Et puis comme c'est moi le chef, finalement j'ai tranché en faveur de ce titre-là. Mais est-ce qu'on a pris le titre à l'envers? Est-ce qu'on aurait pu formuler la problématique autrement, Jadeline Garde, en disant par exemple « La défense de l'économie nuit-elle à l'environnement ?» Quel titre vous préférez entre les deux?
Ah bah, moi, je trouve plus juste la deuxième interrogation, si je puis me permettre. Mais la première interrogation me va aussi, puisque, faut bien l'admettre, résume un débat qui a cours aujourd'hui dans notre société, c'est très clair. Et c'est vrai que ces mouvements d'opposition à ces grands projets d'équipement, qu'il s'agisse de la ferme des 1000 vaches, de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, du Center Parcs de Roibon et en fait de plein d'autres, en réalité, on voit bien qu'ils remettent cette question-là sur le tapis, à savoir peut-on encore construire de grands équipements en France? Ça, c'est ce que vont dire les défenseurs de ces grands équipements. Et en face, les gens vont dire, nous, on ne veut pas de ces équipements. Mais ce qu'il faut bien voir, et ce qui n'est pas contenu dans votre question, c'est que ceux qui s'opposent à ces grands projets ne s'y opposent pas uniquement pour des raisons de défense de la renoncule ou des batraciens ou du triton crété, mais aussi pour défendre des modèles alternatifs, des modèles alternatifs de vie qui sont aussi des modèles alternatifs de travail. Et donc, ce n'est pas nature contre activité, mais c'est un autre type d'activité plus protecteur de la nature.
On a justement toute l'émission pour aller vers davantage de complexité. Mais Éric Le Boucher, laquelle des deux formulations vous irait le mieux? Donc je rappelle, hein, la défense de l'environnement nuit-elle à l'activité économique ou la défense de l'économie nuit-elle à l'environnement? Enfin, un peu comme certains magazines, vous savez, qui proposent deux unes différentes.
Non, mais je suis un peu d'accord. Les deux, ça marche dans les deux sens. C'est vrai que l'activité économique de ces
100 dernières années a provoqué des dégâts sur la planète. Ça, personne ne peut le nier aujourd'hui. Donc effectivement, l'activité économique nuit, enfin transforme la planète. Nuit, je ne sais pas, c'est un terme de jugement moral, mais transforme la planète. Après, dans l'autre sens, c'est vrai que la lutte de certains écologistes se font au nom d'une autre économie, donc de pas de l'économie au sens où tout le monde l'entend en général, et donc ça, souvent c'est assez négatif pour cette économie-là, c'est d'ailleurs fait pour ça.
Alors illustration justement de ce conflit qui peut y avoir entre défenseurs de l'environnement et défenseurs de l'activité économique, c'est donc ce qui se passe en ce moment en Isère à Roibon. Il y a eu, donc je le disais, une manif hier, il y en a eu une déjà il y a 8 jours. Alors le dimanche, elle a réuni environ 1500 personnes, selon qu'on est du côté des manifestants ou des gendarmes, à chaque fois il y a quelques centaines de différences, des personnes qui manifestaient alors là, en faveur du projet de Center Parcs, avec comme argument, oui, ça va développer les emplois, oui, ça va permettre au village de se renouveler.
Derrière les sourires, il y a toute la détresse des chefs d'entreprise, des salariés, qui ont autre chose à faire que de manifester pour de tels événements. On sera encore beaucoup plus nombreux pour l'inauguration 2017 du site et l'ouverture du Center Parc.
À Roibon, il n'y a personne. Vous croisez des jeunes de 14-15 ans qui vous disent « moi, je vais me barrer ». Ça fait bizarre, c'est pas normal. Puis, vous voulez aller où? Quand votre famille est là, vous voulez aller où?
Après, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Hein? On va habiter ailleurs? Petit à petit, les habitants, ils sont en train de partir. Hein. Si vous regardez le nombre de maisons qui sont fermées, vous comprendrez tout de suite.
Alors ça, c'est ce qu'on pouvait entendre à Roibon le dimanche 7 décembre. La veille, le samedi, 500 de manifestants, ceux-là opposés au projet, qui manifestent sur le site du chantier.
Vous voyez, là, on arrive sur le territoire des Avenières. On est pratiquement dans la Drôme, tu vois, ici. Mais c'est pas parce qu'il restera des forêts à côté que tu n'auras pas détruit les zones humides et que tu n'auras pas détruit le réservoir d'eau de la Drôme et que tu ne seras pas venu nous casser les pieds avec un tourisme à la con. Et c'est un projet qui est totalement aberrant et qui l'est d'autant plus qu'on se rend compte maintenant partout. Tu as eu le barrage de Sivas, tu as eu Notre-Dame-des-Landes, mais je crois que celui-ci, c'est quand même le modèle type de ce qu'on ne peut pas faire.
Alors Éric Leboucher, est-ce que les opposants au projet de Center Parcs à Roibon disent exactement le contraire de ce que disent ses partisans ?
Oui, en fait, oui, hein, on a l'impression. Ce qu'il faudrait toujours, c'est ce qu'on ignore, c'est la réalité. Et j'hésite toujours à me prononcer sur des petits conflits très locaux comme ça, parce qu'il faudrait vraiment avoir étudié le dossier dans le détail, ce que je n'ai pas fait. Mais j'ai vu sur le barrage de Sivens que c'était quand même pas glorieux. Enfin, le projet n'était pas excellent. Donc, il y avait une réalité dans la lutte contre. Alors là, y a-t-il une réalité? Les arguments qu'on a entendus sont carrément nuls. De dire « j'en veux pas du tourisme à la con », pardon madame, mais quand le jeune homme dit « je suis obligé de partir parce que j'ai pas d'emploi », je me demande qui est à la con.
En même temps, c'est un argument qui est assez répandu parmi les opposants. Il y a notamment l'économiste Jean Gadret qui a signé une tribune il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est sur le site d'Alternative Économique, qui dit pas « c'est du tourisme à la con », mais enfin c'est exactement ce que ça veut dire. À la fois il dit « on ne va créer que des emplois précaires ». Donc c'est essentiellement des travaux de nettoyage. Donc c'est pas forcément ça qu'on attend d'une activité économique un petit peu soutenue. Et puis par ailleurs, c'est un tourisme qui ne va s'adresser qu'aux 10% des personnes les plus aisées de la population.
J'en sais rien, Center Parcs, j'ai pas l'impression que c'est les 10% les plus élevés.
C'est
et puis
cher.
Après tout, il y a des niches. S'ils ont choisi cette niche-là, qu'ils développent cette niche-là, puis on fera du tourisme plus populaire ailleurs. J'en sais trop rien. Encore une fois, je ne connais pas le détail. Mais l'argument de dire c'est un tourisme à la con, ça c'est à la con. Parce que la France n'a pas tellement, malheureusement, d'avantages comparatifs. Son tourisme en est un. Donc on le retrouve sur le travail le dimanche, si vous voulez. C'est vrai qu'on accueille beaucoup de monde en France. On est la première destination touristique d'Europe. Et donc, c'est un avantage. Il faut, pas au nom de cela, tout saboter la nature, mais au nom de cela, il faut créer des emplois, oui.
C'est peut-être d'ailleurs assez intéressant que vous fassiez le parallèle avec le travail du dimanche, Éric Le Boucher, parce que Jacqueline Garde, sur le travail du dimanche, on a notamment entendu Martine Aubry, enfin surtout lu d'ailleurs Martine Aubry, dire que c'était une question de choix de société. Finalement, est-ce que là, ce qui oppose en fait les partisans et les opposants au projet, c'est pas d'abord sur des projets de société davantage qu'une opposition entre défenseurs de l'environnement versus défenseurs de l'économie?
Moi, je ne crois pas du tout que ce soit un conflit local. Et je pense qu'en effet, on est dans un conflit. La personne faisait référence à Notre-Dame-des-Landes et au barrage de Sivens. Je pense qu'on est dans un conflit systémique, un conflit de système. Et le système est le suivant. Est-ce qu'on continue avec une politique d'équipement à l'ancienne, avec des projets qui datent d'il y a des décennies? Le projet de Center Parcs à Roibon, de mémoire, il date d'il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. Idem pour le projet de Sivens. Notre-Dame-des-Landes, il date des années 70. Donc est-ce qu'on est dans la continuation d'un système à l'ancienne où on construit envers et contre tout en produisant des emplois, je suis désolée, qui sont souvent pas très bien payés, pas très valorisants. Enfin, être femme de ménage dans un center park, c'est un boulot difficile. Est-ce que c'est ce type-là d'activité qu'on veut créer, qu'on veut offrir à ces jeunes qu'on entendait
mais
dans
les
le reportage
le réclament.
Attendez,
là,
je termine. Non, mais c'est là où je suis pas d'accord. Ils réclament de l'activité. Ils ont bien raison
de réclamer cette activité-là.
Attendez, j'ai pas fini.
Faute de mieux peut-être, mais
j'ai
au
pas
moins
terminé.
C'est celle-là.
Ils réclament de l'activité, des emplois, de pouvoir rester dans leur village. Ça, c'est une demande qui est fondamentale. Donc, lutter contre le dépeuplement des villages, ça, c'est une responsabilité de l'autorité politique. La question, c'est, et à mon avis, c'est ça ce dont parle ce conflit, c'est quel type d'activité, quel type de travail on peut proposer à ces jeunes, précaires ou chômeurs. Et là-dessus, je suis désolée, on peut pas, ce serait très paresseux, intellectuellement, de se contenter de dire, c'est le Center Parcs ou rien. Ben non, il y a plein d'autres activités aujourd'hui à développer. On a un chantier de transition énergétique dans ce pays qui est énorme. On a un chantier de refonte des politiques agricoles qui est énorme. On a sans doute d'autres activités à proposer pour ce site qu'un site touristique. En effet, les Center Parcs, pour votre information, avec le boucher, c'est quand même des vacances qui coûtent très cher. Et donc, en effet, qui s'adressent quand même à une proportion, enfin une élite de la population française. Donc voilà, on pourrait parler sereinement et posément de ce type de projet.
Éric Le Boucher.
Non, mais on rêve là. C'est-à-dire qu'il y a un projet concret et puis il y a à côté, il faut faire une transformation énergétique de la planète. Et il faut, je veux bien, mais que soyons concrets. C'est quoi,
ouais,
c'est quoi
concret.
Concrètement? C'est quoi concrètement? Parce que c'est très joli. Moi, je suis assez d'accord sur la transition énergétique sur la planète. Bien entendu, il faut la faire. Je suis assez d'accord sur une nouvelle agriculture en France et sur la planète. Je suis d'accord. Mais soyez concrète. À ces gens-là, vous donnez quel travail? Donc, c'est bien gentil de dire...
S'occuper de la forêt, on peut faire du tourisme en forêt, mais sans créer
des mots,
de Center Parcs.
C'est des mots, c'est pas des emplois.
Du tout, c'est des projets concrets.
Vous opposez des mots à des emplois. Vous opposez des mots à des emplois. C'est-à-dire que vous vous faites plaisir. C'est comme Martine Aubry, je reviens là-dessus. Martine Aubry sur le travail le dimanche. Au fond, Martine Aubry, on a l'impression, elle dit que c'est un projet de société. Outre que passer de 5 à 12 dimanches de travail, c'est quand même pas un projet de société. Ou alors la société est vraiment très fragile. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en effet, moi je suis d'accord pour le travail associatif, le dimanche, la vie. Mais ok, mais concrètement, est-ce qu'on passe de dimanche en dimanche dans sa vie? Non, on travaille du lundi au vendredi. Et donc, on travaille. Le problème de Martine Aubry dans son texte, c'est que le travail n'existe pas. Et là, dans votre réponse, c'est la même chose. Non. On me dit, oui, on va faire de la transition énergétique, d'une nouvelle agriculture. Ouais, ok, très bien, mais ce sont des projets, des mots.
Mais
soyez
non.
Pas. Non, vous opposez, encore une fois, des mots à des emplois.
Si je prends Notre-Dame-des-Landes ou le barrage de Sivens, les opposants à ces projets ont des contre-projets extrêmement précis qu'on ne va pas détailler là, on n'a pas le temps de ça. Ils ont des projets extrêmement précis d'activités sur ces territoires. Dans le cadre de Sivens, c'est de préserver l'espace de la zone humide avec à la fois un travail d'entretien de cette zone et à la fois des capacités d'irrigation pour alimenter des parcelles en agriculture paysanne qui sont créatrices d'emplois. Et juste là-dessus, je me suis permis de ressortir les chiffres d'une étude qui avait été réalisée en 2010 par le CIRED, qui est un centre de recherche en économie, et notamment par Philippe Quirion, qui est un économiste assez spécialisé sur les enjeux de transition énergétique. Et donc, en 2010, il avait fait une étude. Alors, c'est une étude, hein, mais bon, il faut bien se raccrocher à des éléments pour réfléchir concrètement. Et l'étude montrait que si on prenait en Île-de-France et si on enclenchait un mouvement de désindustrialisation de l'agriculture francilienne pour qu'elle soit beaucoup plus à petite échelle, locale et biologique, cela pourrait créer jusqu'à 164 000 emplois. Donc on est dans les choses très concrètes. Et en gros, le système, c'est remplacer le capital par le travail. Ça veut dire moins de machines, moins d'industrie, un travail plus extensif d'une certaine manière, mais donc plus de création d'emplois.
Mais est-ce que la difficulté, Jacques Lingard, ça n'est pas déjà d'arriver à gérer deux temporalités qui ne sont pas du tout les mêmes? C'est-à-dire envisager des projets de long terme qui seront peut-être plus respectueux de l'environnement et qui fourniront peut-être autant d'emploi, encore que ça reste à prouver, et d'un autre côté, la nécessité pour des élus qui sont en place de soutenir des projets qui sont tout de suite, eux, pourvoyeurs d'activités.
Mais pas forcément, parce que vous savez, par ailleurs, les center parks et les centres de loisirs, pierres et vacances, ce ne sont pas tous florissants. Hein. Moi, ça m'est arrivé en Normandie de visiter justement des terres agricoles qui avaient été achetées par Pierre et Vacances pour créer des villages de vacances qui sont entièrement vides. Donc par ailleurs, l'idée de « on va créer un grand équipement, ça va créer plein d'emplois », honnêtement, attention, là aussi, c'est un peu le miroir aux alouettes.
Éric Le Boucher.
Oui, ça se peut. J'ai pas de... Il faut garder dans le détail. Mais si on revient sur votre, le sujet de votre émission plus générale, c'est vrai que les économistes ont changé d'avis, en fait, en 2006 avec le rapport de Nicolas Stern. Avant ça, l'environnement n'était pas du tout une priorité. Au contraire, même...
Nicolas Stern, qui est lui-même un économiste.
Voilà. Au contraire, la priorité était la lutte pour la croissance, la lutte contre la pauvreté, la lutte pour l'emploi, etc. Et Nicolas Stern les a fait transformer leur l'esprit en expliquant que c'était un problème très grave, premier point, et que deuxièmement, si on ne fait rien, ça coûte beaucoup plus cher que de faire quelque chose. Si on fait quelque chose, c'est 1% du PIB. Et si on fait... quelque chose, ça coûte 1% du PIB. Si on ne fait rien, ça coûtera plus tard 4%. Les deux, d'ailleurs, évaluations sont beaucoup trop ridicules. C'est sûrement beaucoup plus cher que ça. Mais à part ça, donc il y a pas de désaccord sur le fond entre l'économie et l'environnement. Chacun comprend qu'il faut mettre du vert dans l'économie. Mais le sujet, c'est à quel moment, et en étant concret, tout ce qui est problématique aujourd'hui, c'est la technologie. C'est-à-dire qu'il faut faire une transition énergétique, ok, mais à condition de faire sur des technologies qui soient disponibles et qui soient pas trop chères. Voilà. Et c'est tout le problème qu'il y a aujourd'hui sur la voiture électrique et autres, qui n'est pas prête, tout ça. Bon, alors, sur l'agriculture biologique, moi, en effet, ça viendra un jour, mais elle n'est pas prête parce que votre projet, c'est gentil, mais à quel prix? Si on remplace les tracteurs par les gens, voilà, on revient
c'est
en arrière.
Gentil, mais c'est une réalité,
franchement, est-ce que les gens vont acheter leur pain 10 fois plus cher? La réponse est non.
Mais c'est faux.
Donc, ce que vous dites, en gros,
les technologies ne sont pas prêtes.
Quand est-ce que vous dites en gros, ça marche? Éric Le Boucher, c'est que tant qu'on reste finalement au niveau des projets globaux, on peut tout à fait réussir à concilier économie et écologie.
Et ça avance très vite.
C'est dès qu'on se frotte à la réalité du terrain, là,
non, il ne faut pas aller trop vite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, aujourd'hui, si vous achetez une voiture électrique aujourd'hui, vous allez tomber en panne, parce que vous ne pouvez pas l'utiliser sur l'autoroute. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Donc les projets d'agriculture biologique, quand c'est économique, c'est-à-dire qu'on c'est pas hors de prix, etc., ça marche et ça se développe très vite. Moi, j'y crois tout à fait. Mais il faut pas mettre, pardon d'utiliser cette formule, mais la charrue avant les bœufs, parce que ça ne marchera pas. Et donc voilà, peut se lancer trop tôt dans des projets. Oui. Alors si on revient sur sur autre chose, qui est l'activisme au fond, comment on fait changer, comment on agit pour, comment on fait du militantisme écologique. Alors là, moi, je suis très étonné parce que je trouve que ça avance énormément, la thèse écologiste, au fond. Peut-être ça avance beaucoup à Lima, mais on se prépare quand même. C'est pas exclu qu'on tombe sur un accord à Paris l'an prochain. Pourquoi? Parce que les deux grands pays ont basculé. États-Unis et Chine ont changé d'avis, ont considéré qu'effectivement leur environnement allait coûter trop cher, comme disait Nicolas Stern dans son rapport en 2006.
Donc l'écologie avance, mais c'est les écologistes qui avancent pas suffisamment, c'est ça?
Non, mais je je suis très étonné de voir les écologistes qui parlent plus de climat, et alors qu'ils devraient se renforcer aujourd'hui leur bagarre, parce qu'ils sont en train de gagner. Et donc, ils nous parlent de ils s'enferment dans du micro-local, ce que je trouve très curieux, dans un micro-local violent. Et qui, à mon avis, va desservir vite leur thèse.
Bah, en même temps, on peut parler et de climat et de micro-local, puisque c'est d'ailleurs ce que vous faites, vous, Jadeline Garde, dans votre livre. Les deux sont pas totalement antinomiques.
Absolument, c'est-à-dire que le livre, moi, il est un petit peu différent. C'était sur l'idée, finalement, l'individu, comment il réagit face au dérèglement climatique. Finalement, c'est quoi la subjectivité contemporaine, quoi, en changement climatique, et comment expliquer qu'on se sente aussi loin de ça, en règle générale, et dans nos vies quotidiennes. Et moi, c'est vrai que là où, pour moi, encore une fois, ces conflits ne sont pas locaux, mais sont systémiques, ces conflits autour des grands projets que certains disent inutiles et imposés, ils sont systémiques parce que... Et c'est en rapport absolu avec le même économiste Nicholas Stern, qui depuis son rapport de 2006 a sorti un autre rapport, le New Climate Economy Report, le rapport sur la nouvelle économie du climat. Et que dit Nicholas Stern, qui est quand même loin d'être un anticapitaliste, que dit Nicholas Stern dans son rapport? Il dit qu'il faut faire hyper attention parce que dans les 30 ans qui viennent, il y a des milliards de milliards d'euros d'investissements qui vont se faire dans les infrastructures des pays en développement et des pays émergents, infrastructures routières, infrastructures de BTP, etc., etc. Si ces investissements se font dans des infrastructures encore basées sur les énergies fossiles, et ce qui est le cas pour la France de Notre-Dame-des-Landes et du projet Center Parcs et quelque part du barrage de Sivens également, si on fait ça, ça veut dire qu'on enferme, on piège ces pays dans des modèles ultra pollueurs qui non seulement donc vont aggraver le dérèglement climatique avec toutes ses conséquences pour la nature, mais pour les gens, enfin pour les habitants et les millions de réfugiés climatiques, mais par ailleurs aussi dans des modèles qui économiquement vont peser considérablement sur le développement de ces pays. Donc là, ça me paraît compliqué de défendre en général la transition énergétique, et puis quand il s'agit de prendre des décisions effectives et concrètes, de toujours reporter à plus tard. Non, il y a une urgence maintenant. Jean Jouzet, le climatologue, le disait encore en revenant de Lima, il faut agir maintenant. En 2020, ce sera trop tard. On sera parti sur une voie d'émissions de gaz à effet de serre qui va nous amener au-delà des plus 2 degrés de température, plus 3, plus 4, plus 5, certains disent plus 6 degrés. Donc sur une trajectoire qui est catastrophique, on ne peut plus attendre, il faut agir maintenant. Et cette urgence-là, elle n'est pas aujourd'hui assimilée par les décideurs politiques et économiques.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
C'est la déception qui domine dans la blogosphère au lendemain du sommet de Copenhague sur le climat. En effet, faute de consensus entre les pays réunis dans la capitale danoise, la conférence n'a finalement accouché que d'un texte aux ambitions limitées et non contraignantes d'un point de vue juridique.
Voilà, ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de France 24. Nous sommes en décembre 2009, au lendemain de l'échec du sommet de Copenhague sur le climat. Ce qui nous permet de passer à la deuxième partie de cette discussion dont je vous rappelle la problématique. Éric Le Boucher et Jadeline Garde, la défense de l'environnement nuit-elle à l'activité économique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est au-delà de la conflictualité qu'il peut y avoir justement aujourd'hui entre défense de l'environnement et défense de l'activité économique, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là? Autrement dit, comment est-ce qu'on en est arrivé à une situation qui est quand même très loin de l'unanimisme qu'il pouvait y avoir il y a quelques années seulement, lorsqu'on disait bah voilà, la défense de l'environnement, la lutte contre le réchauffement climatique, ce sont des luttes absolument prioritaires et l'économie va nous permettre de réussir à surmonter ce défi-là. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est dans des situations qui paraissent à ce point crispées? Éric Le Boucher.
La première raison, c'était que ce n'était pas une priorité pour beaucoup de gens quand même, notamment pour les Américains et les Chinois. Et pour les Chinois, ça le reste en beaucoup. Pour les Indiens, pour tous les pays en développement, ils disent, écoutez, laissez-nous faire notre développement, puis on verra après. C'est vous qui avez pollué la planète, c'est à vous de faire les efforts, ça n'est pas à nous. Bon, ça c'est la première réponse. Donc chacun s'est regardé en chien de faïence en disant, c'est à vous de jouer. Et puis la deuxième, je crois, celle-là j'insiste beaucoup, c'est que, qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aux gens, arrêtez de prendre votre voiture, restez chez vous. Il faut bien que les gens se transportent. Et tant qu'on n'a pas une technologie qui les transporte pour aller au travail, eh ben les gens ils continuent de prendre leur voiture. Donc c'est là où là, ça a pêché, si vous voulez, c'est qu'on n'a pas mis peut-être le paquet sur les technologies vertes. Quand on a fait des choses sur, par exemple, l'Allemagne qui a essayé de mettre un paquet sur la technologie verte, c'est un échec terrible, puisque qu'est-ce qui ça se conclu que finalement ils ont remis en place des centrales au charbon, ce qui est pire que tout.
Donc c'est plus compliqué, quand même.
Ben non, mais c'est ça qui s'est passé. Soyez simple, c'est ça qui s'est passé. Quand on se précipite sur des technologies qui ne sont pas prêtes, évidemment, on court à l'échec. C'est ce qui s'est passé. Alors, je pense qu'on entre dans une troisième phase qui, avec la décision américaine et chinoise, qui est fondamentale. C'est les deux plus grands pays de la planète. Et donc, c'est, comme l'Europe était sur ce combat depuis longtemps, on est maintenant trois. Et je pense que les choses vont aller en s'améliorant. Il ne faut pas être négatif. Je pense que c'est lent, c'est trop lent, ça ne va pas assez vite. Mais la priorité est dans les têtes. Maintenant, il faut trouver les mécanismes de financement. Ça, ce n'est pas encore fait.
Est-ce qu'elle est vraiment dans les têtes ? Je suis étonné que vous ne mentionniez pas le poids de la crise économique dans le fait qu'un certain nombre de dossiers justement, qui prennent en compte la défense de l'environnement sont un petit peu mis de côté.
Mais non, parce que la crise économique, alors là, on va se rejoindre, mais a montré qu'il y avait un modèle de croissance qui ne repartait pas. C'est-à-dire la reprise n'embraye pas sur une forte croissance. Et que donc, il y a besoin, c'est ce qui se passe avec la nouvelle commission. Il y a besoin d'investir, en effet, pour faire cette transition, pour accélérer les choses. Et donc, ça commence à se passer, là aussi. Donc, je ne pense pas du tout que la crise soit anti-environnement, si vous voulez. Dans l'urgence, oui, parce qu'il faut créer des emplois, il faut arrêter le chômage, c'est là redevenu une priorité. Mais tout de suite, ça fait 5 ans qu'elle a commencé, cette crise, dès aujourd'hui, on voit bien que le problème de la transition énergétique, mais de façon intelligente, j'insiste là-dessus, revient comme solution même à la crise.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Jadeline Garde ? Moi, j'ai lu par exemple dans Les Échos qu'il y avait un certain nombre de collectivités locales qui, confrontées à une baisse des dotations, une baisse de budget, et qui avaient créé un service de développement durable, et bien ont dû finalement y renoncer justement parce qu'il fallait trancher et que c'est plutôt dans ces domaines-là qu'on tranche en priorité.
C'est clair que la crise favorise le statu quo. L'exemple de l'Allemagne est en effet très intéressant. Quand on regarde aujourd'hui, parmi les grands perdants de l'Energiewende, donc la politique de transition énergétique allemande, donc on rappelle fermeture des centrales nucléaires et à terme fermeture des centrales à charbon, et avec un programme extrêmement ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment avec un programme très ambitieux d'amélioration de l'efficacité énergétique des logements, beaucoup plus ambitieux que le programme français. Les premières victimes de ça, ce sont les grandes compagnies d'énergie allemandes, E.ON, RWE, etc., qui ont perdu énormément de chiffre d'affaires au profit notamment de collectivités et de régions qui se sont associées pour reprendre en fait la maîtrise de leur système de distribution et parfois de production énergétique en disant « nous on fait, et pour les faire, 100% renouvelables ». Et donc on voit bien, c'est un vrai basculement. C'est non seulement on s'éloigne des fossiles, mais en plus on se réapproprie cette activité en tant que collectivité, on en refait un bien public, un bien commun. On voit bien que ça, évidemment, pour des entreprises, c'est un conflit. C'est un conflit dans lequel elles s'impliquent. Et c'est une bataille économique qui sera enragée et jusqu'au bout. Donc on est en plein dans le clivage. Donc pourquoi est-ce que ça clash aujourd'hui plus qu'auparavant ? Parce que là, on arrive vraiment dans le dur. On arrive dans le dur et dans le dur d'une crise qui a pris beaucoup d'argent. Mais là-dessus, c'est pareil. Il y a plusieurs lectures possibles. On peut aussi considérer que cette crise, c'est l'épuisement d'un système économique, qu'on n'a plus de croissance en Europe, qu'elle est quasiment inexistante, qu'on est parfois en situation de déflation. Donc de toute manière, le système ne fonctionne plus. Donc on pourrait aussi faire le pari, essayons autre chose, un autre système. Et là-dessus, il y a quand même beaucoup de travaux d'économistes qui montrent à quel point il y a de la prospérité, y compris prospérité sans croissance. C'est Tim Jackson qui avait dit ça. Mais plus proche de nous, en France, l'économiste Gaël Giraud, qui a fait un travail quand même important et qui continue, y compris pendant le débat sur la transition énergétique qu'on a eu en France là, avant la loi de transition énergétique, il estime entre 60 et 100 milliards d'euros nécessaires par an pendant 10 ans pour faire cette transition. Quand on regarde les milliards d'euros que la BCE, la Banque Centrale Européenne, a créé pour les banques, on n'est pas plus, c'est pas plus que ça demande. C'est une question politique d'allocation des ressources monétaires.
Ouais, je précise qu'on n'a pas parlé de décroissance ce soir pour l'instant. Enfin, je ne sais pas si on aura l'occasion d'évoquer très brièvement cette question, mais en tout cas, nous, on a prévu au Grain à Moudre de consacrer une émission spécifique sur cette question de la décroissance. Éric le boucher.
Non, mais les deux victimes de l'Allemagne, c'est d'abord non pas l'abandon de l'énergie fossile, mais c'est le recours au charbon. Donc c'est une production de CO2 qui s'est accrue énormément en Allemagne. Première victime, c'est tous les Allemands.
Et qui réduit aussi. Non, mais regardez, c'est pas la réalité des chiffres.
Non, mais vous faites plaisir avec des idées. Regardez les faits. Et la deuxième victime, c'est les consommateurs qui payent deux fois plus leur électricité, deux fois plus cher que la France.
À cause de la libéralisation des marchés.
À cause, oui.
C'est pour ça que l'électricité a augmenté en Allemagne.
À cause des méchants capitalistes qui sont toujours là, des grandes entreprises qui ont un complot méchant contre vous. Non, arrêtez. Ça, c'est
la réalité historique, monsieur Le Boucher.
Non, vous faites plaisir avec des mots.
Mais pas du tout.
Regardez le résultat allemand.
Depuis l'ouverture des marchés, l'électricité a augmenté en Allemagne au point que l'électricité allemande aujourd'hui est plus chère pour les ménages que l'électricité française.
Oui, c'est ce que
je vous dis. Consomment beaucoup moins et donc leur facture, la facture des ménages est inférieure à la facture des Français.
Alors écoutons Éric Le Boucher.
Bon, ce qu'il y a, c'est que l'énergie allemande, la politique énergétique allemande, font un bordel monstre dans toute l'Europe. Donc, et on n'a pas fini d'en payer les conséquences, d'une façon générale.
Ce que vous dites en gros, Éric Le Boucher,
c'est
en tout cas, c'est moi la responsabilité de la crise économique, que finalement de mauvaises décisions, en tout cas prises au mauvais moment, dans un certain nombre, enfin en tout cas dans quelques-uns de vos billets qu'on peut lire sur slate.fr, Éric Le Boucher, vous mettez aussi en avant la responsabilité de ceux qui, politiquement, sont censés aussi défendre cette cause, à savoir les écologistes. Donc c'est l'écologie politique. Je voudrais juste vous citer brièvement, puisque vous reprochez en gros aux écolos de ne pas proposer de projet alternatif. Et vous dites ceci, les défenseurs écologistes opposent toujours le PIB et l'environnement. Ils n'ont de solution pour faire prévaloir l'écologie que de brimer l'économie par la contrainte et la bureaucratie. Au lieu de se vouloir les inventeurs concrets d'une nouvelle économie frugale, leur combat contre les infrastructures fait d'eux des réactionnaires au lieu d'avant-gardistes. C'est-à-dire que vous considérez qu'il n'y a pas de proposition valable aujourd'hui du côté des défenseurs de l'environnement ?
Oui, parce que le vrai problème des écologistes, c'est la technologie. Ils n'aiment pas la technologie.
C'est la technologie ou c'est l'économie ?
Non, c'est la technologie, c'est le nucléaire, c'est la nanotechnologie, l'agriculture chimique, etc. Avec des bonnes ou des mauvaises raisons, on peut discuter. Mais au fond, ils ne voient pas que la solution, pas toutes les solutions, mais la solution à l'agriculture biologique, à l'agriculture intensive chimique, c'est une agriculture biologique avec beaucoup de rendement, donc avec des études très fines, des OGM par exemple, etc. Bon. Non que les OGM soient toute la solution, non plus. Tout ça, il faut être beaucoup plus précis. Mais c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'ils ont une vision à la fois irénique en disant on va faire ce que vous dites, un nouveau développement économique.
C'est très concret,
c'est du mot. Non, c'est des mots.
Il y a plein d'exemples, c'est un mouvement mondial.
C'est des mots. Ça démarre avec une toute petite vitesse, pas assez rapide pour résoudre les problèmes de l'environnement. Ça ne marche pas. Ce n'est pas des mauvaises choses. Mais ça démarre trop lentement. Les circuits courts, etc. C'est très bien. Mais ça démarre trop lentement. On ne va pas résoudre les problèmes.
Donc pour résoudre les problèmes, ils ne sont pas assez dans le
pour résoudre les problèmes, il faut pousser des technologies qui résolvent les problèmes. Pour de vrai. Par exemple, le problème du transport. Ce n'est pas de dire les écologistes taxent ou interdisent les voitures à Paris. Mais ça ne résout pas le problème des gens. Ça emmerde les gens, ça en résout leurs problèmes. Donc, et ça n'enlève rien de la pollution puisque tous les chiffres le montrent. Donc voilà, il faut mettre l'accent sur des solutions viables et des solutions, j'allais dire, économiques, qui marchent, quoi.
Alors, je dois dire que j'ai trouvé peut-être une réponse à votre argument, Éric Le Boucher, sur le fait que, voilà, il y a peut-être je sais pas comment on pourrait appeler ça, une dérive bureaucratique, disons, de la part des écologistes.
Ça, c'est l'écologie punitive. Mais les économistes ne sont pas complètement contre, parce qu'ils sont pour les taxes carbone, etc. Il faut que les gens qui polluent payent. Donc, ça, ils ne sont pas contre ça. Donc, l'écologie punitive, c'est un mot inventé maintenant par... Je ne sais pas si c'est Ségolène Royal qui l'a inventé, mais c'est assez bien joué. Mais c'est en grande partie vrai dans l'esprit de beaucoup d'écologistes. Mais c'est pas... pas complètement vrai.
Ah, il y a peut-être une réponse indirecte, puisque je vous ai cité Eric Le Boucher, je vais aussi citer Jeanne Lingard, phrase que j'ai trouvée dans votre, partout, là, dans votre livre. Vous dites « Nous sommes affiliés par défaut à un système insoutenable. Il faudrait que ce soit l'inverse, que la norme soit durable et qu'il faille déroger par choix pour polluer. Cette analyse plaide pour la régulation, le pouvoir normatif. » C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il faut comprendre que les écologistes, les défenseurs de l'environnement sont aussi contraints par le système à se retrouver assez régulièrement dans des oppositions, dans des situations où ils doivent s'opposer plutôt que de proposer.
Ce sont des voix minoritaires. Donc, par définition, ils sont obligés de lutter contre un système pour se faire entendre. Donc, du coup, il faudrait savoir, du côté d'Éric Le Boucher, est-ce qu'ils sont sur une mauvaise voie ou pas assez entendus, quoi. C'est l'un des deux. Mais en l'occurrence, ils restent hyper minoritaires. Et donc, d'où l'importance des actions de résistance. Et on voit bien ce qui est de blocage, de résistance, que Naomi Klein appelle les blocadias dans son dernier bouquin. C'est-à-dire, en gros, on voit bien qu'à ce stade, tant que les alternatives écologistes, agriculture biologique, association pour le maintien de l'agriculture paysanne, l'agriculture urbaine, etc. Tant que ça reste en périphérie, le système le supporte très bien, c'est accepté, il n'y a pas de problème. Mais en revanche, quand vous commencez à bloquer les grands projets, ce qui se passe aujourd'hui avec le mouvement des ZAD en France, mais ce qui se passe aussi aux États-Unis avec l'opposition à l'oléoduc Keystone XL, ce qui se passe contre les grands barrages en Inde, contre les projets extractivistes en Amérique latine, donc on est quand même face à un mouvement mondial, hein, malgré tout, la France rentre dans un contexte international, et ben, quand vous bloquez, là ça pose problème, parce que c'est là que ce sont les batailles politiques d'aujourd'hui et les batailles politiques de demain. Et quand on parle d'écologie punitive, moi je trouve ça assez choquant comme expression, parce qu'en réalité, on est dans une économie punitive où aujourd'hui, la pollution et les émissions de gaz à effet de serre sont subventionnées par un système. Et tant que ça n'aura pas de concrétisation économique, ça risque bien de perdurer.
Bon, j'ai un projet à vous proposer qui va peut-être vous réconcilier l'un et l'autre, Éric Le Boucher et Jeanne Lingard. Il va falloir sortir un petit peu et de Paris et d'Aubervilliers, mais pas pour aller très loin. En Seine-et-Marne, à proximité d'Euro Disney.
Village Nature. À 6 km de Disneyland Paris, la première destination touristique européenne, et à proximité immédiate du Val d'Europe, de son pôle de transport de premier plan et de son centre commercial international, un monde unique va bientôt sortir de terre. Cette nouvelle destination de vacances de court et moyen séjour, d'envergure européenne, sera fondée sur la quête d'harmonie entre l'homme et la nature.
Voilà, Village Nature, c'est un parc touristique qui est dédié à la nature. En Seine-et-Marne, c'est un projet porté à la fois par Euro Disney et par Pierre et Vacances, encore eux, donc c'est-à-dire voilà, Pierre Vacances qui mène les projets pour Center Parcs. Jeudi dernier, Manuel Valls a posé la première pierre de ce village nature, en présence notamment du président du conseil régional d'Île-de-France, Jean-Paul Huchon. Manuel Valls parle d'un chantier vert qui va permettre d'allier économie et écologie. Jean-Paul Huchon dit que c'est un projet qui est bon pour l'emploi et bon pour l'environnement. Est-ce que ça pourrait être l'exemple de ce qu'il faut faire?
Mais si les gens veulent partir en vacances dans la nature, qu'ils aillent faire des balades en forêt. Enfin, c'est très bien aussi. Pourquoi toujours penser des politiques de construction qui vont artificialiser les sols, donc bétonner, contribuer à la fois au dérèglement climatique, à la fois à la perte en terres agricoles? Pourquoi pas imaginer un endroit d'exploitation agricole extensif qui puisse être à la fois une école, à la fois un lieu de production d'agriculture locale? Enfin, on a quand même plein d'alternatives aujourd'hui, qui permettent de penser activité et respect de ce territoire, et pas une espèce de bulle de nature artificialisée.
Quelles alternatives on peut imaginer, Éric Le Boucher ?
Non, mais ça me fait penser, il y a un siècle, vous n'auriez pas construit le bois de Boulogne et le bois de Vincennes, parce que ça est une construction.
Ah oui, mais ce sont des bois. Ça ne vous aura pas échappé.
Oui, c'est des bois ouverts, c'est des bois où il y a plein de gens, et c'est des bois pour les gens, et les Parisiens, la nature, est là, pas loin, au bout du métro. Donc, c'est des projets qui sont... Alors, moi, à l'inverse, je suis critique aussi, mais pas du tout pour la même raison. Je pense que c'est trop petit. Et je ne vois pas pourquoi, d'ailleurs, c'est privé. Parce que ça devrait être beaucoup plus large. Je pense que Paris manque complètement de forêts autour. On devrait replanter énormément de forêts, ça permettrait aux gens d'aller moins loin que d'aller passer le désert de la Beauce et de la Brie pour aller à la campagne. Ils iraient beaucoup plus près. Donc je trouve que c'est une idée abîmée, quoi. L'idée de mettre tout près des endroits où les gens vont pour retrouver la nature, c'est une bonne idée. Mais j'ai pas l'impression que ce soit bien, que c'est trop petit, c'est privé. Il aurait fallu, les gens du 19e siècle l'ont fait en beaucoup plus grand. Je vous rappelle, le bois de Boulogne et le bois de Vincennes, c'est des endroits aujourd'hui libres, accès à tout le monde et ou très fréquentés.
Pensez à une politique sociale d'accès aux vacances pour les habitants des quartiers populaires.
Mais
je ne dis pas contre le bois de Boulogne, mais je veux dire plutôt que construire des espaces comme ça qui seront payants, qui seront chers, qui vont profiter à des gens, encore une fois, qui auront les moyens de se payer, c'est-à-dire pas beaucoup de gens. En revanche, on voit bien les problèmes, y compris sociaux, des inégalités que ça pose. En revanche, pensez à une vraie politique de tourisme social qui puisse amener ces enfants des quartiers populaires à la mer et à la campagne. Ce serait une politique qui réconcilierait activité, justice sociale et écologie.
À qui profitent les centres de vacances? Tiens, ça pourrait être par exemple l'objet d'une prochaine émission dont vous venez de nous donner l'idée. Merci beaucoup en tout cas Jadeline Garde et Éric Leboucher d'avoir participé à cette discussion que vous pouvez évidemment comme chaque jour prolonger sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Demain, une émission différente de celle d'aujourd'hui, mais sans doute trouverons-nous quelques points de convergence. Nous recevrons Serge Michel qui vient de publier Le marketing de la peur et Fabrice Nicolino, Un empoisonnement universel. Ça, c'est le titre de son livre. La question que nous poserons demain, à quelle vérité scientifique peut-on se fier? Tout de suite, c'est le rendez-vous. Et c'est avec Laurent Gomard. Bonsoir Laurent.